Bonjour. Tout à l'heure, quand Rolly a parlé de la rentrée aux enfants, il leur a posé cette question. Vous savez ce qui va arriver demain? Il y en a un d'entre eux, je ne dirai pas qui sont ses parents, a dit « on va mourir ». Et j'aurais pu dire ça. J'aurais pu dire ça, et je l'ai dit, je l'ai pensé, en tout cas, de façon sûre pendant des années. On va mourir. Et c'est vrai que la rentrée peut être... confrontative. Elle nous expose à une réalité où nous avons passé un temps qui était un petit peu dans l'oubli justement du temps. Nous étions dans des bons moments et puis nous nous retrouvons face à la réalité. Et la réalité, parfois, est confrontative. La réalité de la vie chrétienne est confrontative. La Bible est confrontative. Elle nous confronte, elle nous remet en question. Et parfois, il est bon pour nous d'être remis en question. Vous qui êtes membre de l'Église, vous êtes au courant, nous sommes dans une période vraiment où nous, les anciens, nous nous réjouissons parce que nous vivons une période assez extraordinaire. Nous allons passer à 2 cultes parce que nous sommes pleins et que nous voulons continuer à grandir. Nous avons comme projet en ligne de mire aussi de lancer une implantation d'église. Nous allons multiplier et faire grandir les groupes de quartier que nous allons remodeler, je vous en retoucherai 2 mots tout à l'heure. Et toutes ces choses-là sont des bons indicateurs pour nous de croissance. Mais, les activités, le calendrier ne sont pas et ne doivent pas être des critères d'évaluation de la santé d'une église. De la même façon que le nombre de personnes présentes sur les bancs le dimanche matin n'est pas un signe de la bonne santé de l'église. La preuve en est que des sectes qui tirent leur origine de certains juste courts passages de la Bible font salle pleine à craquer. Alors quel est le critère pour nous? Quel est le critère que nous devons avoir pour savoir si notre Église est en bonne santé? Ce n'est pas un scoop, nous le savons, ce n'est pas à nous de fixer le critère, c'est Dieu qui les fixe, c'est sa parole qui les fixe. Et ensemble, pour commencer l'année, pour ce culte de rentrée, je vous invite à regarder une de ces vérités qui va peut-être nous gratter tous et qui m'a gratté, moi le premier, et qui continuera toute notre vie à nous gratter, mais qui est indispensable pour la santé de notre Église. Un des versets de la Bible qui nous pousse à nous remettre en question et qui nous pousse à rejeter les mensonges derrière lesquels nous nous cachons des fois pour nous prétendre en bonne santé devant Dieu ou nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans la lettre écrite aux Hébreux, au chapitre 12. Et je vais lire simplement un court verset, un seul verset, le verset numéro 14, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, et le verset 14. Et ce verset permet de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui peut m'assurer que ma foi est authentique? Qu'est-ce qui vous assure que votre foi est authentique? Voici ce que nous dit Hébreux 12, verset 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est un des versets de la Bible. Je relis. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je voudrais souligner, dans le temps que nous avons ensemble, quatre affirmations de ce verset. Quatre affirmations qui sont capitales et qui permettent de répondre à la question que nous nous posons. Comment s'assurer que nous sommes en bonne santé? Et comment profiter de cette rentrée scolaire pour artificiellement faire aussi une rentrée d'église, comme il n'y a pas de continuité dans la vie d'église, bien entendu, mais comme une rentrée et peut-être, si nous sommes égarés, éparpillés, nous rassembler et tourner ensemble les yeux vers Dieu et poursuivre la voie sur laquelle il nous appelle. Quatre affirmations dans ce verset. La première est que la sainteté n'est pas optionnelle dans la vie chrétienne. Elle n'est pas réservée qu'à certains chrétiens qui ont dit « Ah, lui, c'est... » ou « Elle, c'est une femme de Dieu, lui, c'est un homme de Dieu. » Non, tous les chrétiens sont consacrés à la sainteté. Première affirmation. Deuxième affirmation, la sainteté n'est pas impossible. Elle est possible. Troisième affirmation, la sainteté est nécessairement communautaire. Et quatrième affirmation, la sainteté est notre espérance. Commençons avec la première de ces affirmations. La sainteté n'est pas une option. Nous, chrétiens évangéliques, comme le dit Rolly, qui sommes attachés à l'Écriture et qui laissons la Bible dire elle-même comment être sauvés, sommes attachés, et l'année dernière, à l'occasion des 500 ans de la Réforme, nous sommes revenus sur ces grandes vérités qui concernent le salut. Nous sommes attachés à la foi seule pour être sauvés. Nous sommes attachés au fait que Jésus-Christ seul sauve. Parce que Fils de Dieu, il est venu sur terre vivre une vie parfaite d'obéissance à Dieu dans tous les commandements. Ce que Rolly a affiché, ce que Jésus a dit qu'aimer Dieu, c'est garder ses commandements, Jésus seul l'a accompli à la perfection totalement. Et en plus de cela, il a obéi en acceptant de s'offrir en sacrifice pour porter à notre place la responsabilité de nos péchés et nous offrir sa justice, sa perfection. Il s'est substitué à nous et il a tout fait pour nous donner, lui, sa sainteté. Et voici la mesure de l'amour de Dieu pour nous. Il consiste à ce qu'il a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Et la seule chose que nous avons à faire, la seule chose que nous avons à saisir, c'est ces vérités-là et nous les approprier. Mais les Écritures veulent être claires et ne pas nous laisser dans le doute. Qu'est-ce qui atteste à l'Église? Qu'est-ce qui atteste qu'il y a une réalité derrière ces faits-là? Qu'est-ce qui atteste que l'Évangile nous a vraiment transformés? Qu'est-ce qui atteste qu'il y a eu réellement une nouvelle naissance, une nouvelle vie? La Bible répond aussi à ça avec la même clarté que comment est-ce qu'on obtient le salut. Elle explique que cette sainteté de Dieu, qui est la sienne, qui peut être décrite par des livres, on pourrait faire 10 tomes qui pourraient décrire la sainteté de Dieu. Mais la sainteté de Dieu qui exprime son caractère moral absolument parfait, le fait que Dieu est séparé de tout mal, qu'il le déteste, qu'il n'y a rien qui soit imparfait en lui et rien qui puisse demeurer devant lui de façon imparfaite. Ce Dieu-là, parfait, étranger à toute forme de mal, ce Dieu qui règne, veut nous faire participer à son règne et nous placer sous son règne et nous rendre saints. Notre salut ne dépend que de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alors comment, si cela est vrai, comment concilier cette apparente contradiction qu'on pourrait voir dans ces affirmations bibliques où d'un côté nous disons qu'il suffit de croire pour être sauvé, et de l'autre côté, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, qui nous dit qu'il faut mener une vie sainte pour être sauvé. Sans cette vie sainte au quotidien, vous ne serez pas sauvé, vous ne verrez pas le Seigneur. La contradiction est apparente seulement. C'est seulement en apparence que certains textes affirment que nous sommes sauvés par la foi seule et que d'autres affirment que c'est par les actes ou des bonnes œuvres. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi seule, mais que cette foi authentique va générer automatiquement une transformation dans notre vie. Et je voudrais vous démontrer cela par quelques affirmations qui sont des exemples qui sont bien connus dans la Bible et faire un léger survol, parce qu'on prend juste un texte, mais je vais vous montrer qu'il y a une cohérence et qu'il n'y a aucune contradiction dans toute la Bible. Juste simplement, un texte tiré de l'Ancien Testament, à un moment très connu de beaucoup de monde, c'est le moment où Dieu a délivré Israël, son peuple, qui était depuis 400 ans en Égypte et qui était devenu esclave. Et quand Dieu a voulu libérer son peuple et qu'il l'a fait sortir du pays d'Égypte et qu'il l'a conduit vers une terre promise, à ce moment-là, quand le peuple est sorti, voici ce que Dieu dit à son peuple. Je lis donc en Exode 19, les versets 4 à 6. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Écoutez ça. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Le but de la rédemption, le but du salut de son peuple, Dieu délivre son peuple afin qu'il soit saint. Le peuple devait refléter les perfections morales de Dieu. Et Dieu a donné les 10 commandements au peuple et tout le système de la loi pour que le peuple puisse vivre comme témoin que Dieu est saint et qu'ils sont transformés par leur relation avec ce Dieu-là. Et dans le Nouveau Testament, les exemples abondent, et dans l'Ancien Testament aussi, et on n'a pas le temps de faire tout un survol. Mais simplement une chose, une remarque. Quand Jésus nomme l'Église dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, à chaque fois qu'il nomme l'Église, qu'il prononce le mot « Église », c'est pour parler de sa sainteté. Pourquoi ? Parce que l'Église est le corps de Christ. C'est-à-dire que par la foi, nous sommes unis à lui. Et c'est une métaphore qui montre Jésus comme étant le chef, la tête, et nous lui appartenons. Et si Christ est moralement parfait, eh bien son peuple doit tendre à cette perfection morale, doit tendre à la sanctification, c'est-à-dire ce processus d'être transformé de plus en plus à son image et de rejeter le mal. Si l'Église ne prend pas au sérieux la sainteté dans les relations, la sainteté personnelle, elle ne prendra pas au sérieux le problème du péché et elle ne prendra pas au sérieux la question du pardon. Elle ne prendra pas au sérieux l'importance d'annoncer le salut. Elle ne prendra pas au sérieux l'amour pour son prochain qui le voit si loin de Dieu et qui demeure, tant qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu, sous la condamnation de Dieu. Nous devons prendre la sainteté au sérieux parce que les Écritures nous le disent. Et Jésus est on ne peut plus clair à ce sujet. Il dit, par exemple, dans Matthieu 7, « Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, mais ce n'est pas, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, chose miraculeuse, en ton nom que nous avons chassé des démons, encore des actes miraculeux, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors, Jésus lui-même s'occupera de cela. Je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Jésus était bien conscient que parmi la foule qui le suivait et tous ceux qui chantaient son nom, un bon nombre d'entre eux étaient des Canada Dry. Vous vous souvenez de la pub de Canada Dry ? Ça ressemble à la bière, ça a la couleur de la bière, ça a l'odeur de la bière, mais ce n'est pas de la bière. Jésus, lui, ne se faisait pas tromper par ça, parce qu'il sonde les cœurs. Et est-ce que nous mesurons aujourd'hui, 2000 ans plus tard, cette réalité pour nous, ici, aujourd'hui? Il se peut bien, alors que les bancs sont pleins, qu'en réalité, l'Église ne soit remplie qu'à un tiers. Qu'est-ce qui fait que nous sommes réellement chrétiens? Qu'est-ce qui peut vous donner l'assurance? Est-ce que c'est parce que vous êtes présent ici ce matin, que vous aimez chanter et que vous faites partie régulièrement des activités d'Église? La Bible nous donne une toute autre assurance. La Bible nous dit et enseigne massivement, et le Nouveau Testament le reprend, et il y a des livres en entier, Corinthiens, Galates, Hébreux, 1 Jean, et une partie du Nouveau Testament est écrite pour répondre à cette question-là. Un évangile qui ne pousse pas à la sainteté n'est pas l'évangile des Écritures. Et tous les auteurs du Nouveau Testament, à l'unisson, soulignent la même vérité. Des preuves évidentes doivent découler, doivent accompagner la foi sincère. Ainsi, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le salut est indissociable du désir d'être rendu saint. Le but de notre salut est d'être transformé à l'image de Jésus-Christ, d'être détaché de plus en plus de notre péché. Autrement dit, la recherche ardente de mener une vie sainte ne peut jamais être la cause du salut. Ce n'est pas parce que nous la recherchons que Dieu nous sauvera. Christ seul est en mesure de nous sauver. En revanche, elle en est le résultat obligatoire. La recherche ardente de mener une vie sainte n'est pas la cause de notre salut, elle en est le résultat. Un évêque anglican très connu, R.C. Ryle, disait ceci: « Personne ne peut mettre sa confiance en Christ pour le salut s'il n'aspire pas simultanément à être saint. » Jerry Bridges dit: « La seule signe infaillible de notre position en Christ, c'est la soif de la sainteté. Le but de Dieu lorsqu'il nous sauve est de nous transformer à l'image de Christ. Christ qui menait une vie détachée du péché, qui obéissait à tous les commandements de Dieu. Christ qui aimait la sainteté. Ce Christ-là qui vient vivre en nous par son esprit quand il nous donne une vie nouvelle, nous pousse, nous donne les mêmes aspirations, les mêmes appétits que lui à la sainteté. Et en même temps, nous apprend à rejeter le péché, à le mettre à mort. Le prolongement biblique d'une telle affirmation est terrible à entendre, parce qu'il nous confronte et nous met face à la réalité suivante. Si vous ne recherchez pas la sainteté, que le péché a une place importante dans votre vie sans que cela ne vous dérange, et qu'en même temps vous dites « Seigneur, Seigneur », vous ne verrez pas le Seigneur. Nous ne sommes pas sauvés par la sanctification, nous sommes par la grâce et par la foi seule. Mais la grâce et la foi, si elles sont réellement vivantes et agissantes en nous, nous poussent à chercher la sainteté. Je vous lis, pour enfoncer le clou, un des articles d'une des confessions de foi de la Réforme, la confession de foi belge. Ce n'est pas une blague belge, c'est sérieux. Il est impossible à cette foi sainte de ne produire aucun fruit dans la vie d'une personne, étant donné que nous ne parlons pas d'une foi vide, mais de ce que l'Écriture appelle la foi agissante par l'amour. Et donc je répète, tout évangile qui prétend que Dieu vous aime et vous sauve sans qu'il vous pousse à la sainteté n'est pas biblique. Le salut est indissociable du désir d'être rendu saint. C'est la première affirmation de ce texte. La deuxième affirmation de ce verset est merveilleuse. La sainteté n'est pas impossible. L'auteur dit « Faites tous vos efforts ». Parfois, c'est traduit comme « recherchez », mais c'est une recherche qui est ardente. Faites une enquête, donnez-vous à fond, donnez tous vos efforts comme vous le donneriez dans une salle de sport pour vous préparer pour les Jeux Olympiques. La sainteté est quelque chose que Dieu nous demande d'atteindre. Elle est possible et elle est progressive. C'est ce que la Bible appelle ailleurs, naturellement, la sanctification, ce processus qui démarre au moment de notre nouvelle naissance, au moment où nous appartenons à Christ, où nous plaçons en lui notre foi pour être sauvés, et qui se produit et qui sera rendu parfait lors de son retour. Elle est possible parce que Dieu vit en nous par son esprit. Elle n'est pas possible à l'homme seul, mais elle est possible à l'homme en qui l'esprit habite. Elle n'est pas passive, elle est active, puisque Dieu nous rend collaborateurs de notre sainteté. Dieu veut que nous soyons actifs à l'œuvre, que nous fassions des choix, que nous prenions des décisions, que nous mettions en place des habitudes, que nous tenions des choses dites pour vraies, d'autres pour être des mensonges. Notre sanctification est progressive et active, et même si le péché demeure en nous, il n'est plus le maître, parce que Christ seul est devenu le maître de notre vie. Andrew Murray disait que c'est une chose d'avoir le péché vivant en nous, c'en est une autre de vivre dans le péché, et c'est ce que la Bible souligne. La vie chrétienne ne peut pas être caractérisée par une complaisance dans le péché, mais par une soif de la justice. Elle est un processus qui suit la nouvelle naissance et qui sera achevé. Et où puiser la force quotidiennement pour ça? Où puiser la force, où puiser les ressources? Regardez juste dans l'Épître aux Hébreux la suite, la courte phrase qui suit cette affirmation du verset 14. Au verset 15, une recommandation qui est donnée à l'Église et aux responsables de l'Église. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Comment la sanctification est-elle possible? Par la grâce seule, en s'appropriant, en se nourrissant de cette grâce quotidiennement qui nous transforme. Dieu est l'agent de notre transformation et nous demande d'être pleinement actifs. C'est pour cela que Paul disait la même chose à Tite. Il lui dit « Enseigne que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux désirs de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Concrètement, en quoi consiste la sanctification au quotidien? Il y a un mot qui est tout simple et que Dieu nous demande de vivre, c'est aujourd'hui. Ne nous préoccupons pas de la sainteté de demain, mais de la sainteté qui nous est demandée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la sanctification, la transformation à l'image de Christ est quelque chose de fondamentalement relationnel qui se passe entre Dieu et nous. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire à Dieu « Je veux être saint, sanctifie-moi, amen, et je fais ma vie comme je veux. » C'est une demande que nous devons reformuler tous les jours, un désir qui doit nous habiter quotidiennement, à dire « Seigneur, tu es saint, rends-moi saint. » La sanctification appartient à aujourd'hui parce que la sanctification est relationnelle. Dieu se glorifie dans nos vies quand il nous voit vivre dans cette saine dépendance. Celle qui affirme que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux pas aujourd'hui produire les œuvres bonnes que tu attends de moi. J'ai besoin que toi, tu m'aides. J'ai besoin que tu... Je veux te rechercher, toi, de toutes mes forces. C'est toi qui vas me sauver. Alors aujourd'hui, je commence par sonder mon cœur et dire, montre-moi mon péché. Tout mon péché. Je ne veux pas qu'il y ait de précaré, d'endroit dans mon cœur qu'il me soit réservé à moi ou dans ce domaine-là de ma vie, sur ma sexualité, sur ma vie professionnelle, sur mes relations dans mon couple, sur mes relations avec mes enfants, sur mes relations avec mes parents ou avec mes collègues de travail, ou tout ce qu'on peut imaginer, ce soit privé et que je sois maître et que je décide moi-même ce qui est bon pour moi. Mais qu'au contraire, je vive tout conformément à ta volonté. Que je recherche à faire la guerre au péché quotidiennement. Vivre en nous tenant de lui le plus loin possible, en étant prêt à prendre toutes les mesures les plus radicales pour cela. Et ne pas se contenter simplement de la façade que l'on peut affirmer devant les autres, mais de qui on est dans le secret, quand personne ne nous voit. Être radical, c'est le seul moyen qui nous est donné. Rechercher de faire tous nos efforts. Il n'y a qu'un mode. Et quand nous ne recherchons pas à faire tous nos efforts pour Dieu, il ne faut pas croire que nous restons statiques. Nous sommes sur une pente glissante qui nous conduit de compromission en compromission vers le péché, la rébellion et l'endurcissement de notre cœur. Prenons au sérieux la sainteté. Ma première affirmation était que le salut est indissociable du désir d'être rendu saint. La deuxième affirmation est que la sanctification est possible. Elle est progressive uniquement en comptant sur la grâce de Dieu. La troisième affirmation de ce texte est celle-ci. La sanctification est communautaire. Le texte ne dit pas que chacun recherche dans son coin, dans sa vie personnelle, la sainteté. Recherchez ensemble. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Ici, dans le contexte, c'est dans le sein de l'Église. Bien sûr qu'il faut être en paix avec tout le monde sur terre et aimer notre prochain. Mais dans ce texte, le contexte, c'est l'Église. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde au sein de l'Église, je rajoute, et pour mener une vie de plus en plus sainte au sein de l'Église, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Les destinataires de cette lettre étaient des personnes qui vivaient à une époque trouble, étaient des Hébreux, c'est pour ça qu'on a donné ce titre à cette lettre-là, qui vivaient des difficultés, des persécutions depuis l'extérieur, des gens qui les oppressaient à rejeter le Christ, et dans l'intérieur, des personnes qui, comme elles étaient originaires du judaïsme, étaient tentées de revenir en arrière et de rejeter Jésus-Christ. Et l'auteur leur dit « Soyez unis en Jésus-Christ » et entre vous. C'est notre façon de formuler les deux commandements de la loi morale de Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur, aimez votre prochain comme vous-même. Soyez unis. L'auteur écrit pour les encourager à demeurer, parce qu'il est bien réaliste, ça demande des efforts. Et ça fait 2000 ans que cela demande des efforts à l'Église. L'affirmation connexe à cela, et que sans l'Église, on ne tient pas longtemps seul, ni dans la paix, ni dans la sainteté. D'ailleurs, je vais forcément choquer certains d'entre vous qui fréquentent l'Église depuis longtemps. Et croyez-moi, je n'ai pas le choix et je ne veux pas paraître pour le méchant, mais simplement dire avec tout mon amour, au nom des anciens et au nom de tous les frères et sœurs, avec tout mon amour, nous devons nous rappeler que ce que la Bible dit doit être vécu parce que c'est Dieu qui l'affirme. Parmi les personnes qui me consultent régulièrement dans le cadre d'entretiens individuels, pastoraux, pour l'immense majorité des cas qui concernent la question du problème avec la lutte contre le péché, des problèmes sur la vie au quotidien. La plupart de ces personnes sont des personnes qui malheureusement vivent l'Église que de façon épisodique. Ou en tout cas qui se contentent de surfer de temps en temps sur la vague du dimanche matin pour être présentes. Et c'est déjà super. Et je me réjouis à chaque fois que je vois ces personnes-là. Mais quand je suis en entretien avec elles, à chaque fois j'ai l'impression que ces personnes attendent une réponse extraordinaire, unique, comme s'il y avait un secret à découvrir. Et à chaque fois, au long des conversations, quelles sont les conclusions? Mais tu as besoin de l'Église. Tu as besoin des relations avec des frères et des sœurs. Tu as besoin de personnes que tu côtoies qui vont pouvoir t'encourager dans ta foi, te rappeler la grâce. Et nous, moi le premier, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta foi, j'ai besoin de ta fidélité à Dieu pour que moi je puisse grandir. Nous avons besoin les uns des autres parce que nous sommes un corps. Est-ce qu'un membre de votre corps, s'il est coupé du corps, il est encore vivant? Biologiquement, quelques minutes peut-être. La foi est faite pour être vécue de façon communautaire, parce que nous ne sommes pas avant tout des individus, nous sommes un peuple, appelé à vivre sa foi localement. Aimer Christ et ne pas aimer son corps, vouloir l'époux, Christ, et rejeter l'épouse, l'Église, ça n'a pas de sens. Tout le Nouveau Testament est écrit à des églises. Ce n'est même pas dans la pensée biblique que l'on puisse vivre sa foi de façon isolée. Et quand je parle isolée, je dis simplement en venant le dimanche ici, se pointant, on s'assoit, on écoute et on repart comme on est venu et privé de toute relation. La vie d'église est bien plus que le dimanche. Alors concrètement, comment est-ce qu'on vit ça? Mais c'est pour cela que cette année qui vient, nous avons décidé et nous avons pensé depuis un moment à remodeler nos activités, notamment les rencontres de semaine, pour nous permettre de vivre avec la croissance et pour ne pas demeurer perdu dans la masse, vivre des relations intenses, personnelles, intimes, au travers des groupes de quartier qui vont évoluer et qui vont même changer de nom. Voilà, je vous fais un petit teasing, on vous expliquera ça la semaine prochaine. Mais ces groupes vont évoluer pour réduire en taille et nous permettre, entre nous, de nous rencontrer régulièrement et de se dire « Hé, mon frère, ma sœur, comment ça va ? Comment ça va en ce moment ? Et est-ce que moi ça va pas ? Est-ce que tu peux prier pour moi, pour tel et tel et tel sujet ? En ce moment, je lutte avec tel péché, j'ai besoin de tes prières, sans toi je n'y arriverai pas. » Saisissons ce mois de septembre, saisissons cette rentrée pour chercher à redécouvrir et vivre l'Église d'une nouvelle manière, qui ne soit pas simplement centrée sur des activités ou un programme, mais sur des relations qui contribuent à construire la paix entre nous et qui nous aiguisent toujours plus dans la sainteté. Enfin, quatrième affirmation de notre texte, la sanctification n'est pas optionnelle, elle n'est pas impossible, elle est communautaire et la sainteté, la sanctification est notre espérance. Notre unique espoir et ce qui doit nous réjouir le plus, c'est qu'un jour nous serons devant le Seigneur rendus parfaitement saints. Enfin, le combat sera terminé, les luttes cesseront, nous serons délivrés. Et je reformule ce que nous dit Hébreux 12, verset 14. Il dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et menez une vie de plus en plus sainte, car un jour vous verrez le Seigneur. » Certes, le fait que nous devions la rechercher, cette sainteté, prouve que nous ne l'atteindrons jamais totalement dans cette vie. Il y aura toujours des marques de corruption personnellement dans notre vie et dans notre vie communautaire, dans les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et nous pouvons nous décevoir et nous pouvons tomber de haut parfois. Mais la sanctification et la vie d'Église n'est pas sans échec, mais elle est sans renoncement. La sanctification n'est pas instantanée, mais nous avons cet espoir qu'elle sera achevée quand nous serons face à face avec Dieu. Un jour, nous le verrons face à face. La lutte pour la sainteté est un combat que nous livrons pour nous affermir dans les promesses de la grâce future. Nous nous affermissons aujourd'hui dans les promesses de la grâce future. Et notre joie est qu'un jour, nous serons rendus saints. Et c'est pourquoi Kevin DeYoung, un prédicateur que j'apprécie, dit ceci d'une façon provocante, mais qui est tellement vrai. Ceux qui n'aspirent pas à la sainteté ici-bas ne seront pas sauvés, parce que leur foi n'était que de façade. Et de toute manière, s'ils l'étaient, le ciel serait un enfer pour eux, étant donné qu'au ciel, tout sera parfaitement saint. Si on n'aspire pas à la sainteté ici-bas, c'est qu'on n'aspire pas à la sainteté éternelle, celle que Dieu nous offre d'être délivrés de notre péché et rétablir la communion avec lui. Donc la vraie foi en ce Dieu-là est une foi qui nous pousse à cela. Alors, peut-être que l'été a été pourri pour vous. Peut-être que ça a été une occasion de débauche, une occasion de sombrer dans tel ou tel péché. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes de côté et que vous êtes profondément attristé. Et vous savez quoi ? Il y a des péchés dans ma vie qui demeurent présents et qui me meurtrissent, qui me peinent continuellement. Et je veux être réaliste, je crois en la puissance de Dieu, mais je crois aussi en ce qu'il affirme, c'est que je serai rendu parfait qu'une fois au ciel. Et ces péchés-là, s'ils vous attristent, ce matin, je veux vous rappeler, et je veux me rappeler à moi le premier, que ces péchés qui m'attristent me réjouissent. Parce qu'ils sont la preuve que je ne les veux pas dans ma vie. Ils sont la preuve que j'aspire à autre chose que le péché. Ils sont la preuve que je reconnais que le péché dans ma vie est une anomalie. Et ils sont la preuve de la grâce de Dieu qui est manifestée encore aujourd'hui pour nous dire, là maintenant, ça suffit. Cherche la sainteté, fais tous tes efforts, reviens à moi. Pourquoi ? Parce que je t'aime et qu'un jour je veux te voir. Voici l'espérance de l'Évangile. Se saisir aujourd'hui de la grâce. Plus nous grandissons dans notre sainteté, et ça fait 10 ans que je suis chrétien, un peu plus maintenant, 11 ans passés, 11 ans que je suis chrétien, et 11 ans que j'ai l'impression que le péché est de plus en plus gros dans ma vie. Parce qu'en réalité, je réalise et je me vois de plus en plus avec les yeux de Dieu. Et je vois, et Dieu creuse et affine et me montre des péchés qui sont tellement fins, tellement dissimulés derrière une apparence de sainteté, derrière une apparence de gentillesse et de gentil chrétien, etc., etc. Mais merci Seigneur, parce que tu es en train de me transformer et de vouloir lutter contre le péché qui est en moi. Si le péché vous attriste, c'est une bonne nouvelle. La réponse à cela, c'est de courir vers Dieu et Jésus-Christ. Ce que je souhaite, c'est que le reste de notre culte, le temps de Sainte-Cène que nous allons avoir, soit pour nous une réponse à cette injonction de Dieu. Recherchez la paix avec tout le monde et faites tous vos efforts pour être de plus en plus saints. Il vient le temps de conclure. Il y a une vérité pratique sans laquelle nous ne verrons pas, une sainteté pratique réelle sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur. Et beaucoup, malheureusement, vivent comme si ce n'était pas le cas. Et il y a la vérité qui est le corollaire de ça, et qui est urgente, et qui nous appelle à répondre aujourd'hui. S'il n'y a pas une sainteté recherchée, mais une stagnation, une superficialité et une compromission de plus en plus grande, c'est peut-être le moment de nous poser la question si ce que nous verrons, ce n'est pas l'enfer. Si notre foi est belle et bien fondée dans ce que disent les Écritures, si notre foi est bien notre attachement à Jésus-Christ et la manifestation de notre soif de sainteté, de notre amour pour lui qui nous presse à fuir le péché et qui nous donne comme ultime désir dans notre vie d'être saint et d'être convaincu qu'il y a plus de joie dans la présence de Dieu que nulle part ailleurs, que ce soit vécu, pas simplement dit. Amen.